enregistrer, s'il te plaît. Ce soir, nous faisons le 26e cours. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on a commencé cette série, donc on est au 26e cours, c'est un bon chiffre. Et nous allons... attendez, ajouter à la conférence. C'est fait. Et nous allons donc commencer ce 26e cours et commencer une nouvelle Melacha. Bonsoir Rivka.
Bonsoir.
Voilà, donc on commence le cours là tout de suite. Je vous souhaite à tous bonne écoute, une bonne soirée. Et donc,
merci.
26e cours de Ilchot Shabbat ce soir. À toi, Mordechai.
Shavua Tov à tout le monde.
Shavua Tov.
Ah bon. On commence une nouvelle Melacha. Et si on va selon le fil des Melachot qu'on a étudié, la semaine dernière on a terminé la Melacha de Tochen, qui était de moudre. On l'a clôturé. C'était une assez courte, en deux cours on a terminé. Et si on va dans l'ordre maintenant, selon les étapes de la fabrication du pain, donc maintenant on doit étudier la Melacha de lâche. Lâche, c'est-à-dire pétrir. Mais comme je ne suis pas encore assez prêt pour enseigner cette Melacha, je n'ai pas encore fini d'étudier comme il faut, donc je ne peux pas enseigner encore. Donc on va passer à la Melacha d'après. Et une fois qu'on aura bien terminé la Melacha d'après, qui sera assez longue, et on reviendra à l'envers et on fera la Melacha de lâche. Donc la Melacha qui suit lâche, on arrive en fait au dernier stade du pain. D'accord ? Ça du pain, c'est en fait on a semé, on a labouré, on a semé, on a cueilli. Après, on a mis en tas. Après, on a battu le blé. On a trié. On a moulu le blé. Et donc maintenant, il y a deux étapes. Il y a celle de lâche, c'est-à-dire de pétrir. Et une fois qu'on pétrit, ça c'est ce qu'on va voir plus tard. Et maintenant, il nous reste la Melacha très centrale et très importante dans les Ilchot de Shabbat. C'est la Melechet Bichoul. Bichoul, c'est cuire. Pour le pain, ça s'appelle, dans la Mishnah, ça s'appelle Ha'ofe. Cuire du pain, ça a un nom, c'est enfourner en fait. Ofe. Parce que le pain, on le cuit dans le four. Donc ça c'est la Melacha, là c'est, on arrive en fait au stade de la Melacha de Bichoul. Alors Bichoul c'est une grande Melacha, une grosse Melacha, qui est à la fois très détaillée, il y a beaucoup de détails, beaucoup d'alachot, qui n'est pas si simple que ça, bien comprendre les principes, et surtout qui est très, très massée, très, très actuelle, c'est-à-dire très pratique. De Bichoul, ça revient souvent. On a souvent affaire à cette Melacha de Bichoul. Donc il faut bien l'étudier. On a l'habitude, toujours dans la même démarche qu'on étudie toutes les Melachot, c'est-à-dire définir, faire une introduction bien et clé à t'expliquer. Et puis voir aussi toujours des cas très pratiques dans chaque étape. Donc là, ça va mettre du temps. Là, ça va être plusieurs cours. Et bon, qu'on vienne bien ensemble et qu'on étudie bien cette Melacha là, qui est une des Melachot qui sont fondamentales dans le Shabbat, qui sont très centrales. Donc qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer la Melacha de Bichoul. Maintenant, il faut savoir que dans chaque Melacha, chaque fois qu'on commence une nouvelle Melacha, toujours on fait une introduction à cette Melacha. C'est-à-dire, en fait, c'est lié au cours d'introduction qu'on a fait, mais à chaque fois on répète ça à chaque Melacha pour ça. Pour bien d'abord définir la Melacha et comprendre à quelle Melacha on a affaire. Alors, chaque fois qu'on commence une nouvelle Melacha, toujours, d'abord, il faut toujours se référer au Mishkan. Où c'est qu'on a vu cette Melacha dans le Mishkan. Et à partir de là, déjà voir la Melacha de base, l'action de base qui est liée à Bichoul, et de là, on commence à développer, à découvrir cette Melacha. Ensuite, il faut voir toutes sortes de cas qui ressemblent à ça. qu'il y avait au Mishkan, qui s'appelle les Avot et les Toldot. Avot, Toldot, c'est-à-dire action père et dérivé, comme on a expliqué dans l'introduction. C'est-à-dire qu'il y a toujours des actions, plein d'actions qui rentrent tous sous la définition de la Melacha, d'une Melacha qu'on étudie. Donc il faut voir quelles sont les actions qui sont pères et quelles sont les dérivés. Mais en fait, pères ou dérivés, tous sont des actions interdites par la Torah qui rentrent sous la définition de chaque Melacha. Ensuite, bien sûr, il faut définir, bien sûr, comme on fait dans toutes les Melachot, c'est qui est en fait la phrase clé de tous les cours à venir, c'est toujours la définition qui est très importante. Donc c'est pas traduire seulement, cuire, c'est, il faut définir qu'est-ce qui s'appelle cuire. Dans les règles de l'Hilchot Shabbat, qu'est-ce qui s'appelle cuire? Donc il faut définir la Melacha. Et aussi, toujours dans l'introduction, il faut aussi parler du Shi'ur. Shi'ur, c'est-à-dire quelle mesure? Il faut une certaine mesure. Donc, un Shi'ur, il faut une certaine mesure pour que ça s'appelle Melacha. D'accord? Donc tout ça. Où c'est dans le Mishkan? Quelles sont les actions pères? Quelles sont les actions qui sont dérivées? Quelle est la définition de la Melacha et quel est le Shi'ur? Ça, on le fait pratiquement à chaque nouvelle Melacha. Donc, surtout maintenant dans cette grosse Melacha de Melechet Bishoul, il faut définir tout ça. D'accord? Donc, en un premier temps, dans notre introduction, on va essayer de bien développer ça. Donc, on commence toujours par le Mishkan. Oui, c'est en plus qu'à choix notre Parashat HaShavua, qu'on vient de dire cette semaine, la Parashat Trouma. D'accord? En fait, tout ce mois-là, on va s'occuper dans les parachiotes du Mishkan. Trouma, Tetzavé, et après, Vayakel Pekoudé. D'accord? Tout ça, ce sont les parachiotes du Mishkan. Donc, où est-ce qu'elle est cette Melechet Bishoul dans le Mishkan? Alors, bien sûr, je fais toujours faut répéter ça, que lorsqu'on parle du Mishkan, c'est la fabrication du Mishkan. Comme dans Parachat Vayakel, que là-bas, la Torah, elle juxtapose la construction du Mishkan à l'observance du Shabbat. Pourquoi on les a mis un à côté de l'autre? Pour dire que toutes les mélachot, tous les travaux que je n'ai pas le droit de faire le jour du Shabbat, ce sont toutes les étapes de la construction du Mishkan. D'accord? Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est toutes les étapes qui sont faites dans la construction du Mishkan. Maintenant, nous, on a dit qu'on fait selon l'ordre du pain pour que ce soit un moyen mémotechnique. Mais il n'y avait pas de pain à la construction du Mishkan. Il n'y avait pas de pain. Quand on parle de construction du Mishkan, c'est technique, c'est la poutre, c'est les pots, Il n'y avait pas de pain là-bas. Donc où se trouve... Donc la raison qu'on prend le pain, toujours toutes les étapes du pain, c'est pour se rappeler, parce qu'on faisait des étapes avec autre chose là-bas dans le Mishkan. Donc quelle est cette chose-là, où c'est qu'on voit qu'on fait Bishoul dans le Mishkan? Qui c'est qui a l'idée? Où c'est qu'on voit Bishoul dans le Mishkan? Où c'est qu'on voit cette étape-là? Qui c'est?
Les offrandes.
Les
offrandes.
C'est-à-dire?
Les sacrifices.
Le corban.
Alors le corban, il était pas cuit, il était cramé complètement.
Ouais.
Mais je répète encore.
Pour les pains de la présentation.
Pour les?
Les
pains de la présentation. Alors je répète. J'ai fait une allusion très courte, on dirait que c'était trop court, donc je répétais ce que j'ai dit du cours. Que tout, on a parlé de ça aussi dans les cours d'introduction. Que toutes les actions qu'on ne fait pas le jour du Shabbat, on les apprend du Mishkan. Maintenant, quand je dis qu'on apprend du Mishkan, on apprend de la construction du Mishkan. J'apprends pas de ce qui se passe après. Dans la Avoda du Mishkan, les Korbanot, les Lechem Apanim. On ne parle pas de ça, on parle de la construction du Mishkan. D'accord?
Donc, la peinture en laine,
oh,
pour les peaux.
Il a fait la peinture pour les peaux. On vient de lire ce Shabbat, on a lu dans le Sefer Torah, on a dit Orot Elim Me Odamim, Ve Orot Techashim. Alors, le Mishkan n'était pas fait en pierre, on est dans le désert. Pour à chaque fois démonter un édifice de pierre, c'est compliqué. Donc le Mishkan, c'était fait à base de peaux. À base de poutres, de hatséchitim, de bois qui était en cèdre. Et les peaux, il y avait toutes sortes de peaux là-bas. D'accord? Il y a de laine, il y avait des peaux qui étaient. Pas des peaux, il y avait des tentures qui étaient faites en laine, et des tentures qui étaient faites à base de peaux, de élim, de bouc. et de Tachash, c'est une bête spéciale qui avait meyouchet de Tachash. Donc Orot Techashim. Maintenant, dans le Passouk, on a lu qu'il y avait trois sortes de couleurs. Techelet, Argaman et Tolarat Shani. Bleu, bleu ciel, pourpre et rouge. Ce sont les trois couleurs, ça, des peaux, des teintures. Donc pour faire cette couleur, ça on parle de la fabrication là. Pour faire ces couleurs-là, c'est-à-dire on les colorait une fois et c'est tout, c'était tout le temps comme ça, c'était en fait tous les quarts du Mishkan. Parce qu'il y avait des poteaux, et sur ces poteaux, on recouvrait ça en peau. Donc ces couleurs-là, comment on obtient de la peinture? Il fallait cuire des graines de couleur. Maintenant, pour obtenir des graines, il faut labourer. Pour labourer, il faut planter, il faut semer, après il faut cueillir, après il faut mettre en tas, et après il faut battre pour sortir les graines de couleur, et après il faut moudre, et il faut trier, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Seulement, graines de couleur, c'est pas très connu, donc on fait la même chose en pain, c'est exactement la même chose pour faire du pain. D'accord ? Donc maintenant, à l'étape finale pour obtenir la peinture, qui est en fait maintenant, c'est on prend ces graines-là et on prend une marmite avec de l'eau sur du feu et on fait bouillir ça. Donc on fait bouillir l'eau, on met, c'est la poudre en fait qu'on a déjà moulu dans cette eau-là et on obtient de la peinture. Donc ça, c'est la mélacha de bichoul, cuir, à l'étape de la fabrication du mishkan. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le Mishkan. Maintenant, dans le pain, le moyen technique du pain, ça s'appelle Ha-Ofe, Afia. D'accord ? Pareil, Afia, c'est-à-dire prendre la pâte, la mettre dans un four et obtenir du pain. Ces deux actions-là, ça ressemble à Bichoul. C'est-à-dire, au Mishkan, c'était Bichoul. Une action qui ressemble exactement, c'est Ofe, c'est Afia. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le Mishkan. Puisque c'est une étape importante, fabriquer de la peinture. Après, il va y avoir une autre étape, c'est prendre la peau et la mettre dans la peinture, c'est teindre. Ça, on va voir, c'est une autre mélacha qui va venir plus tard. Et la peau, il faut la dépecer, il faut la poncer, il faut lui enlever les poils, tout ça. Chaque étape qu'on va faire après, ça va être toutes les autres mélachotes qui vont venir plus tard, ça va être toutes les mélachotes qu'on fait avec la peau. Donc il va y avoir aussi plein d'étapes. Toutes ces étapes, ça va faire en fait des mélachot dans Shabbat. Donc là, on est dans l'étape de cuire, comme on a vu au Mishkan. Donc maintenant, si j'essaie un petit peu d'étaler un peu la définition de Bichoul. Alors, si je prends par exemple les Av, on a dit qu'il y a Av et Tolda. Donc Av, c'est l'action père. Alors l'action père, il y a plein, toutes les sortes de cuissons que je fais, ça rentre dans cette définition. Alors je vous dis en hébreu, il y a quatre sortes de cuissons en hébreu. Il y a une cuisson qui s'appelle Bichoul, il y en a une qui s'appelle Afia, il y en a une qui s'appelle Tigoun, et il y en a une qui s'appelle Tzlia. En français, c'est Bichoul, c'est cuire, Tigoun, c'est frire, et Tzlia, c'est griller, et Afia, ça je ne sais pas quel est le nom spécialement en français, mais faire du pain, peut-être qu'on dit enfourner, on dit cuire, peut-être qu'on dit aussi cuire le pain. Pardon ? Non, pas pétrir. Ah, enfourner. Comme ça on dit enfourner. Donc il y a un autre mot aussi. Maintenant il faut savoir quelque chose. Que pourquoi chacun c'est spécial. C'est-à-dire, si on analyse, chacun c'est un autre mode de cuisson. Et si je regarde par exemple Bichoul, c'est avec de l'eau. Tout ce qui s'appelle Bichoul dans la Torah, en hébreu, s'appelle que je fais d'abord bouillir de l'eau et après je mets un aliment dans l'eau bouillante, sur une marmite, sur le feu. Ça c'est Bichoul. Ça, c'est cuire par l'intermédiaire de l'eau. Quand j'y enfournais, il n'y a pas d'eau là-bas. C'est que par le four et en fait plus la chaleur du four. La chaleur, c'est la buée, c'est la chaleur du four. Si je dis tigoun, c'est autre chose. Tigoun, c'est frire. Frire, c'est pas bidou comme cuire avec de l'eau. C'est encore un autre mode. Et si je dis tzlia, c'est griller. Donc c'est prendre une grise directement sur le feu. Maintenant, dans d'autres sujets, ouais, dans d'autres notions, il y a de très grandes différences. Ça va varier selon les modes de cuisson. Dans l'ilchot brachot, ou bien dans l'ilchot kashrut, il y a des grandes différences dans les modes de cuisson. Un petit exemple, par exemple, si on fait Tigoun, la bracha, elle sera mésonote. Sur un beignet, par exemple, qu'on fait frire, la bracha sur cet aliment, c'est mésonote. Par contre, si je prends le même ingrédient et je mets ça dans le four, enfin, selon certains critères, il y a plein de détails, mais en tout cas, le four, ça devient pâte. Ça s'appelle l'echem, du pain. Tous les autres modes, les modes qui sont de bichoul, cuir ou tigoun, jamais ça s'appellera pain. Ça s'appellera un plat, mais pas un pain. Donc jamais on fera moti l'echem inares. Donc ça, on voit que c'est selon le mode, ça varie dans la bracha. Ça, c'est un exemple. Il y a encore plein de détails, plein de différences. Par exemple, même dans les chotes de kashrout. Ça, c'est dans kashrout, dans brachot, parce que c'est une notion différente. Mais dans Shabbat, il n'y a aucune différence. Sur Shabbat, que je fasse un bichou là-haut, que je fasse un bichou de feu, enfourné, ou que je grille, ou que je frie, tout ça, ce sont des haves, des actions paires de la melacha de bichou. Alors, au Mishkan, c'était avec de l'eau, comme on l'a dit, une eau bouillante. Mais c'est peu importe. La notion ici, d'accord, et c'est ça en fait maintenant qu'on va essayer d'arriver à la définition, c'est qu'il faut définir. D'accord, si je vois maintenant plusieurs modes, et qu'en fait c'est tous des melachas de Shabbat, donc en fait il faut qu'on arrive maintenant à la définition de la melacha. Alors vous allez voir la définition, donc en fait que c'est pour ça que dans Shabbat il n'y a aucune différence dans le mode de cuisson. Dans d'autres halakhot il y aura beaucoup de différences. Mais dans Shabbat, c'est pareil. Si quelqu'un cuit, si quelqu'un enfourne, si quelqu'un frit, si quelqu'un grille, et dans les deux cas, toutes les figures, dans chacun des cas, ça sera melacha de Oraita, av melacha. Quelle est la définition de la melacha? Alors le Rambam, Maïmonide, il nous dit dans son sefer, un klal. Comment il nous dit le Rambam? Il dit comme ça. Klalo shel davar. Ben sheripa gouf caché. Ou ben chez Iksha Gouf Rach Chayav Mishum Mevachel, c'est-à-dire en français, durcir une substance molle ou ramollir un élément dur par l'intermédiaire du feu. Alors je reprends, ça c'est la phrase du Rambam, le klal, la règle. Qu'est-ce qui s'appelle Melechet Bishul? Qu'est-ce qui s'appelle action interdite de Mevachel, c'est durcir une substance molle ou bien ramollir un élément dur par l'intermédiaire du feu. Ça, c'est la définition. C'est-à-dire que j'utilise une source de chaleur qui est le feu. D'accord ? On va développer après, bien sûr, qu'est-ce que c'est feu, qu'est-ce qu'on va expliquer. Pour l'instant, on est au tout début, la définition. Je prends une source de chaleur feu. Et par cette source de chaleur-feu, je vais transformer quelque chose. Transformer d'aspect, transformer d'état. Si j'ai quelque chose de mou, il va devenir dur. Si c'est quelque chose de dur, il va devenir mou. Par l'intermédiaire du feu, ça c'est la définition de la melacha de Bichou. Bon, maintenant, si on revient à nos quatre modes de cuisson. Si je prends par exemple bichoul, c'est-à-dire que je prends une marmite avec de l'eau et que je la mets sur le feu. Et bien sûr, l'eau elle est bouillante. Donc maintenant, si je mets par exemple, si je mets un morceau de viande dedans, mon morceau de viande il va se ramollir. Par exemple, un steak qui est cru, il est beaucoup plus dur qu'un steak qui est cuit. Essayez de prendre un couteau en plastique, on va dire, essayer de couper le steak cru, ça va être très dur. Mais lorsqu'il est bien cuit, même avec un couteau en plastique, on peut le couper. Il est mou. Donc qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai changé l'état de la viande. J'ai ramolli un élément qui est dur. Grâce à quoi? Par l'intermédiaire du feu. Bon, le feu, c'est pas direct là, c'est l'eau en fait qui a été chauffée par le feu. Donc tout en général, l'eau, son but, c'est de ramollir toujours. Par contre, si maintenant je fais du pain, alors c'est l'inverse qui se passe. Quand je rentre ma pâte dans le four, elle est molle. La pâte, elle est très molle. Lorsque maintenant je vais le faire sortir du four, ça va durcir. Donc ça, c'est pour ça que c'est un autre mode. Mais peu importe, j'ai changé d'aspect. Peu importe si je fais de l'état mou à dur ou dur à mou. Donc maintenant, j'ai du pain. Le pain, il a durci. Donc, ça s'appelle afia. Donc aussi, enfourner du pain, une pâte, et quand j'obtiens du pain, ça sera transformé par l'intermédiaire, là ça sera du feu. Il n'y a pas de flamme vraiment, si on parle d'un four comme on connaît aujourd'hui, mais il y a des résistances électriques qui émanent beaucoup de chaleur, donc c'est l'intermédiaire du feu, il n'y a pas d'eau ici. C'est pour ça que ça durcit d'ailleurs. Donc pareil, tigoun, tigoun c'est frire, pareil ça va ramollir en faisant frire. Si j'ai tslia, tslia là c'est encore plus fort, là c'est le feu direct, là c'est la flamme, une grille sur le feu, là ça va durcir. D'accord, ça va une cuisson qui va se faire par l'intermédiaire du feu direct, mais ça va changer d'état. Ou je ramollis quelque chose, ou je fais durcir quelque chose, et dans les quatre cas de figure, c'est par l'intermédiaire du feu. On est d'accord, de quelque chose qui a été chauffé par le feu. Ça, c'est la définition de la melacha de Mevacher. Si je cherche maintenant des toldot, c'est-à-dire des dérivés de ça. Alors le Rambam aussi, il fait une liste de dérivés. Qui, quand je dis dérivés, bien sûr, c'est pareil, ça n'interdit de la Torah, seulement c'est pas exactement, ça ressemble. Quoi par exemple? Si je prends un métal et que je le fais fondre, je prends de l'or et je fais fondre. Donc je prends, pas comment je fais fondre ça, je prends un métal qui est dur et je utilise le feu directement et je change ça par l'intermédiaire du feu, je fais fondre. Donc ça aussi, c'est un dérivé. Et si je prends aussi par exemple, Romain dit un morceau de fer et que je le fais chauffer jusqu'à ce que ça devient une braise rouge. Je le fais chauffer vraiment dans le feu jusqu'à ce que ça se transforme, ça devient rouge complètement. Ça aussi c'est le melacha de Mevachel. Et changer complètement l'aspect de mon barzel, de mon morceau de fer, mon métal, qui est devenu de métal normal à une braise. Tout rouge. Donc ça aussi, c'est une dérivée de Melechet Mevachel. Le point commun à tout ça, c'est changer d'aspect par l'intermédiaire du feu. Ou bien comme il dit le Rambam, durcir une substance molle ou ramollir un élément dur. Ça c'est la définition. Maintenant, il nous reste à voir le shiur. Ça aussi c'est une notion à chaque fois qu'on définit les Melechot. C'est-à-dire la quantité. Pour que ça soit une melacha et qu'on soit chayav, c'est-à-dire que si on a fait cette melacha, c'est-à-dire bémézi volontairement et chayav karet, ou si c'est involontaire, chayav korban, tout ça, ça s'appelle l'important, il faut que ça soit important. Donc ça varie selon les melachot. Il y a des melachot qu'il n'y a pas de chiour. Parce que même un petit peu, c'est important. Comme par exemple, semer. Semer, mettre une petite graine de 1 mm, c'est important. Parce que de là, peut sortir un arbre de cette petite graine-là. Donc il n'y a pas de chiour. Là, c'est important, même 1 mm. Une graine de 1 mm, elle est importante. Par contre, dans Bichoul, il y a un chiour. C'est-à-dire quoi? Alors il faut bien comprendre que lorsqu'il dit qu'il y a un chiour, ça veut dire que pour être chayav, c'est-à-dire chayav karet, chayav korban, pour transgresser comme il faut la melacha, il faut un certain chiour. Et ça va varier selon plusieurs choses, on va voir. Mais si maintenant j'ai pas atteint ce chiour, alors bien sûr c'est pas permis. Et une machloket, est-ce que c'est un interdit des chachamim ou est-ce que c'est un interdit de la Torah? Et une machloket dans les poskim, une grande machloket. Mais peu importe, comme ça ou comme ça, c'est interdit. Seulement, ça ne s'appelle pas que j'ai transgressé la melacha. Bien faire la différence. Si j'ai fait la melacha, ça veut dire que je fais une action qui va répondre. On va donner un exemple. Allô? Allô? Alors, le chiour dont on parle dans la melacha de Béchoul, ça va dépendre que ce que je vais cuire. Si je cuis un aliment, la quantité minimum pour que ça s'appelle melacha, c'est 18 grammes. 18 grammes, c'est une quantité importante pour pouvoir manger cet aliment. Moins que ça, c'est pas assez important. C'est interdit, bien sûr, d'après la Torah ou d'après les chachamim, mais en tout cas, ça ne s'appelle pas melacha. Pour chauffer de l'eau, ça sera une quantité de quoi faire chauffer de l'eau pour laver un petit membre. Ça commence à devenir important, et donc c'est un chiour, et donc c'est une melacha. Moins que ça, c'est pas une melacha, il n'y a pas de chiour, mais c'est interdit.
Si c'est de la, on veut cuire de la peinture, comme au Mishkan, la mesure, le chiour, c'est de quoi teindre un petit habit. À partir de là, ça, et au-delà, ça devient important, et c'est chachouv, et c'est un chiour, c'est une melacha. Moins que ça, c'est pas une melacha, mais c'est interdit. Chatsi chiour. Donc on a clôturé la définition et l'introduction à la melacha de Bishoul. Maintenant, il y a une remarque importante à faire. En général, lorsqu'on fait la melacha de Bishoul, lorsqu'on cuit, on fait en général une autre melacha avec. Mais on a tendance à confondre, donc c'est bien de bien décrire et bien, et bien dire à quelle melacha on a à faire. Si par exemple, je prends une marmite et que je veux cuire, j'ai un aliment à l'intérieur, donc je prends de l'eau, je mets l'aliment, je cuis, je pose sur le feu. On a dit dans la définition, il faut qu'il y ait une source de chaleur. Donc l'aliment, il va se transformer par la source de chaleur, c'est la melacha de Bishoul. Mais la flamme, pour qu'elle existe, il faut que j'allume une allumette, on va dire, et j'ouvre le gaz, et que je mets l'allumette sur le gaz, et là la flamme arrive. Toutes ces étapes-là, avant de poser ma marmite sur le feu, c'est une autre melacha. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la melacha de Bishoul. On rentre dans la melacha de Mav'ir. Elle est à la fin de la liste des 39 melachot. D'ailleurs, c'est la seule melacha qui est écrite clairement dans la Torah. Lo teva'aru esh bechol moshvotechem biyom ha-shabbat. C'est dans Parashat Vayakel. Mav'ir, c'est, si on traduit, c'est consumer. C'est-à-dire, la flamme, pour qu'elle existe et qu'elle continue à exister, il y a du gaz qui se consume. Donc il y a une melacha qu'on n'a pas le droit de consumer le gaz. Donc ça, c'est une melechet mav'ir. Lorsque j'allume mon allumette, ça va être le bois de l'allumette qui va se consumer. Ça, c'est une mel... Et donc c'est ça, en fait, qui va permettre le feu. Le feu existe que s'il y a quelque chose qui se consume. Ça, c'est melechet mav'ir. Donc l'étape où j'allume mon allumette et l'étape où je mets le feu de l'allumette sur le gaz et que le gaz maintenant va se consumer et donc ma flamme va toujours exister jusqu'à ce que je décide de l'éteindre. Ça, c'est melechet mav'ir. C'est une autre melacha, ça n'a rien à voir avec Bishoul. La melacha de Bishoul va commencer lorsque je vais poser... Lorsque je vais poser mon plat maintenant sur la flamme, lorsque je vais approcher mon élément sur la source de chaleur, là on commence à parler de Melechat Bishoul, mais faire exister la source de chaleur, c'est une autre Melacha, c'est Mavir. Donc c'est bien de préciser ces deux choses différentes pour analyser ces deux actions, parce qu'en général ça va ensemble. Maintenant, on va commencer à développer la melacha atma de Melechat Nevachel. Ça va être une melacha qui va nous durer plusieurs cours. D'accord ? Pour bien, il y a beaucoup de... C'est une melacha qui est très centrale dans l'Hilchot Shabbat. Donc, petit à petit, on va développer et puis on va voir des cas pratiques pour bien essayer de comprendre cette melacha de Bishoul. Alors, il y a encore deux choses à élargir dans la définition qu'on a donnée tout à l'heure. La définition qu'on a donnée, je répète, c'est durcir une substance molle ou ramollir un élément dur par l'intermédiaire du feu. Il y a deux choses à expliquer ici. Premièrement, il faut expliquer qu'est-ce que c'est l'intermédiaire du feu. De quel feu on parle? De quelle source de chaleur on parle? Est-ce que toutes les sources de chaleur vont rentrer dans cette définition ou il y aura des différences? Il faut bien décrire de quelle source de chaleur il s'agit. Il faut donner des exemples, il faut bien expliquer, ça il faut bien définir. C'est une première chose à voir. Deuxième chose, il y a quelque chose d'intéressant dans la melacha de Bishoul. Une melacha, il y a des melachot qui se font immédiatement. Exemple, je mets un clou sur un mur. Au moment où je mets le clou dans le mur, je transgresse l'interdit de bonner, construire. Borer, au moment où j'enlève le mauvais, directement, je trie. C'est automatique, c'est direct. C'est immédiat. Il n'y a pas de temps X qui va durer. pour que la melacha se fasse. Melechet bishoul, c'est différent. Melechet bishoul, il faut un certain temps. On ne peut pas dire que si, par exemple, j'ai une marmite avec un aliment cru à l'intérieur, on va dire que je pose sur le feu, et deux, trois secondes après, je l'enlève du feu. On va dire que le feu existe déjà avant Shabbat. L'acte que je viens de faire maintenant, on ne peut pas dire que j'ai transgressé Melechet Bishoul. Mais que pour cuire, ça veut dire poser, mais il faut que ça cuit. Si ça ne cuit pas, on ne peut pas dire que j'ai fait la Melacha de Bishoul. Donc, forcément, que dans cette Melacha, il faut qu'il y ait un certain temps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut définir, selon les différentes sauces que je vais être Mevachel, quel est le temps qu'il faut pour transgresser la Melacha. Donc, on va voir dans les aliments combien de temps il faut pour transgresser la Melacha de Bishoul. On va voir dans les liquides. On va voir dans le pain. Il y aura trois critères différents pour chacune des trois choses. Qu'est-ce qui s'appelle Mevachel? Donc, dans la définition, lorsqu'on a dit ramollir une substance molle, durcir une substance molle ou ramollir un élément dur, il faut un certain temps pour que cette chose-là, elle s'appelle vraiment transformée. C'est une transformation qu'il faut. Donc à partir de quand on va dire que cette chose-là a été transformée? À partir de combien de temps? Ça, c'est quelque chose qu'il faut développer. Contrairement à des autres melachot qui sont de manière immédiate. Melacha bishoul, elle met un certain temps. Donc ça, c'est les deux choses qu'on va voir, b'sirata d'Ishmaïa, la semaine prochaine.